Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du commentaire de la paracha de la semaine par Avraham Harold Weil, le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Bonjour monsieur grand rabbin.
Bonjour Jean.
Comment allez-vous?
Ça va.
Qu'est-ce que ça fait d'être, d'avoir un portrait dans le journal Le Monde?
Écoutez, pas grand chose de plus que la veille de la diffusion du portrait.
D'accord. Là, puisque début de semaine, il y a eu un article sur vous dans le journal Le Monde.
Comme vous êtes mieux renseigné que moi, Jean, je vois.
Pardon?
Vous êtes mieux renseigné que moi.
Ouais, enfin, vous l'avez lu, à mon avis. On va évidemment parler de la paracha de la
semaine. Moi, je préfère que ce soit vous qui me fassiez un portrait, Jean. Je serais d'accord. Beaucoup plus flatté.
Très, très, très gentil. On vous le fera un jour.
Vous serez indulgent, j'espère.
Une émission particulière un peu aujourd'hui, puisqu'on terminera par parler de la fête de Hanouka, qui aura lieu jeudi soir pour la première bougie. On va d'abord, évidemment, parler de la paracha de la semaine. Oui? Non?
Ah si, avec plaisir.
Ok, la paracha de cette semaine,
c'est passionnante.
Pardon?
Elle est passionnante.
Elle est passionnante, elle est longue aussi, et elle est pleine d'imprévus. C'est donc la paracha de Vaishlar, l'allumage des bougies. Ce sera ce soir à 16h18, mais vous pourrez allumer les nérotes à partir de 15h44, la fin des Shabbats.
Vous nous mettez la ramma, là, Jean. Ouais, déjà que c'est tôt, si en plus on commence à allumer les bougies à partir de 15h47.
C'est l'heure minimum.
Non, vous avez raison, mais je pense qu'on va se contenter de...
16h18.
Ça sera parfait.
D'accord. Il y a des gens qui font entrer Shabbat dès 13h30. Hein.
Et ils sont tout à fait dignes d'éloge, parce que franchement, être prêt tôt le Shabbat d'hiver, c'est, je trouve, tout à fait exceptionnel lorsqu'on sait tout ce qu'on a à faire la veille de Shabbat. C'est toujours un défi d'être à l'heure, d'être prêt, surtout lorsqu'on a des enfants.
Oui.
Tout le monde doit être douché et prêt à partir à la choule, c'est un défi.
Voilà, donc, et c'est trahil. La fin du Shabbat, ce sera demain à 17h29. Les horaires sont uniquement valables pour Strasbourg et sa région.
Vous avez raison de le rappeler.
Comme chaque semaine, on souhaite évidemment au foie Shalema à tous nos malades et un Shabbat Shalom particulier à nos aînés et aux personnes isolées. Je voulais faire deux petites choses. D'abord, souhaiter un grand Mazal Tov à votre papa qui fête son anniversaire.
Vous avez bien raison.
Monsieur Weil,
donc, il mérite un grand Mazal Tov.
Voilà.
Puisqu'il va célébrer ses 80 ans, effectivement. Ve'im bigvurot shmonim shana.
Amen. 120 ans,
et
bonne santé.
On lui souhaite une très bonne santé, une très longue vie, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem.
Voilà, un Mazal Tov à M. Weil, son prénom?
José, Yosef.
Ouais. Yosef Weil, Mazal Tov.
Yosef, c'est de circonstance. Hein.
Oui. Autre chose, je voulais également dédier cette émission d'abord à toutes les personnes qui ont péri hier lors de l'attentat. Il y avait également un rave qui est décédé. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis, je voulais aussi dédier cette émission à la mémoire de M. Shlomo Shokroun, qui est mon grand-père, le père de mon père. Il y aura le Yatsat cette semaine, donc je voulais également lui dédier...
Qui s'appelle Shlomo chez vous, Jean?
Il y a mon frère,
ah, voilà.
Et puis il y a mon grand-père.
Lequel?
Voilà.
Ça va intéresser nos auditrices et nos auditeurs.
Vous avez raison. Voilà, c'est mon grand-père paternel qui s'appelle Shlomo
Shokroun. C'est Sylvain qui s'appelle Shlomo, je crois.
Oui, aussi. On le salue.
On le salue, ça nous permet de le saluer.
Voilà. Bon, on va revenir à une autre information, cette fois pour tous nos auditeurs. C'est que cette semaine, mardi, on changera dans la Amida entre l'été et l'hiver.
Ouais, tout à fait, vous avez raison.
Au lieu de dire Bahreïnon, on dira Barer Halenou.
Ça, c'est pour les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, on dira Veten Tal Umatar. Voilà, mais donc il y aura ce changement, bien sûr qu'on rappellera dans chaque synagogue, je pense que le gabaï qui est responsable de la tfila dans chaque synagogue rappellera à ses fidèles ou les rabbanim en place ce changement dans la Amida qui nous rappelle qu'on est bien rentré dans l'hiver et on s'en rend compte ce matin avec la neige qui tombe très tôt cette année à Strasbourg.
Alors on va juste dire un mot parce que la situation en Israël, on l'a vu, est compliquée, il y a des otages qui sont libérés. C'est une vraie ségoula pour ces gens-là, une vraie liberté, beaucoup de joie dans les familles. En même temps, on sait qu'il y a eu hier encore eu un attentat en Israël. J'aimerais vous demander un bilan. comment on doit comprendre ce qui se passe? Comment on doit le voir, vous qui êtes grand rabbin, et par rapport au texte que vous avez, est-ce qu'il y a un éclairage particulier, quelque chose de spécial?
Non, voilà, je ne suis qu'au grand rabbin, je ne suis ni devin, ni politologue, ni...
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, et tout simplement, je suis un peu spectateur de la situation comme vous, on en a parlé la semaine dernière, je me garde de porter des jugements sur toutes ces négociations, on l'a dit, elles sont extrêmement délicates.
Vous avez comme un avis...
Non, mon sentiment aujourd'hui, il est à la fois dans la douleur extrême que représente cette guerre, et toutes les pertes qui ont déjà été enregistrées, mon sentiment, il est bien sûr la joie immense qu'on a ressentie chaque soir, lors de la libération des otages. On était un petit peu suspendu à cette information, et d'autant plus qu'il y a eu plusieurs contretemps et qu'on a failli à chaque instant voir ces libérations capoter. Et donc, on ne peut bien sûr que se réjouir de la libération des otages. Et on peut en même temps, bien sûr, que déplorer ou être atterré, encore une fois, par cette guerre psychologique absolument épouvantable que le Hamas continue à mener. J'ai envie de dire que cette guerre psychologique, le peuple d'Israël y est malheureusement habitué depuis très longtemps, et d'ailleurs au début de la parasha de Vayishlach, on est aussi un peu dans une guerre psychologique d'un autre genre entre Yaakov et Esav lors de cette rencontre à haut risque. Et voilà, c'est en tout cas vraiment une grosse partie de la problématique, et la guerre psychologique est parfois presque plus violente que la guerre physique, et les traces qu'elle peut laisser sont malheureusement extrêmement délétères.
Il y a beaucoup plus de psychologie dans la paracha de cette semaine aussi.
Mais énormément.
Avec notamment Yaakov. On fait un petit résumé parce que la paracha est assez longue.
La paracha est longue.
Il y a beaucoup, beaucoup de thèmes.
Il y a beaucoup de thèmes, effectivement, qui sont abordés. Alors, je viens de le dire, le début de la paracha, c'est cette rencontre à haut risque entre Yaakov et Esav. Je vous rappelle qu'à la fin de la paracha de Toldot, Esav avait juré d'obtenir la peau, en quelque sorte, de Yaakov et de se venger à la mort de ses parents. C'est qu'Esav avait un respect immense pour ses parents. Et donc, Esav jure qu'il se vengera de ce coup de Trafalgar que lui a fait en quelque sorte Yaakov en lui subtilisant les brachot, même si c'était, comme nous le savons, de droit. Et donc arrive le moment de cette rencontre inéluctable entre Yaakov et Esav. On va revenir dans quelques instants sur cette rencontre qui va finalement se passer beaucoup mieux que ce que l'on pouvait imaginer. À l'intérieur de cette rencontre, il y aura notamment un passage très connu qui est celui de la lutte entre Yaakov et l'ange tutélaire d'Esav, au cours de laquelle, plutôt à l'issue de laquelle, Yaakov, qui remporte cette bataille, non sans être blessé, se verra en quelque sorte élevé au rang d'Israël, donc son nom va non pas être changé complètement, comme ça a été le cas pour Abraham, mais on va lui rajouter en tout cas un nom qui lui donnera toute sa noblesse, ce nom d'Israël que nous portons encore nous-mêmes jusqu'à aujourd'hui, puisque nous sommes les Bnei Israël, non pas les Bnei Yaakov, mais bien les enfants d'Israël, qui représentent donc ce visage extrêmement lumineux qu'incarne Yaakov. Voilà donc pour le début de cette paracha, qui est un passage, donc on l'a dit, extrêmement important. Et puis on aura juste après aussi un passage extrêmement connu et très troublant, qui est celui du viol de Dina, la fille de Yaakov, dans des circonstances absolument terribles, et qui entraînera là aussi la vindicte de Shimon et Lévi. Une réaction qui sera...
Cette naissance qui, plus tard, fera une partie de la descendante d'Israël, puisque Dina sera mariée plus tard avec Yaakov. Elle sera la femme de Yaakov quand il sera vice-roi d'Égypte.
Non, pas de Yaakov, parce que Yaakov, c'est son père. Voilà,
autant pour moi. Autant pour moi.
Voilà, c'est effectivement, en tout cas, l'une des explications. Il y a des controverses à ce sujet. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est un épisode, en tout cas, extrêmement important. Je ne sais pas si on aura le temps de le voir aujourd'hui. Et puis, dans la suite de la paracha, on a des événements aussi assez tristes, puisque nous assisterons au décès de Rivka et de sa nourrice également. Dvora, donc c'est un moment aussi important dans l'histoire du clan Israël, le départ de Rivka, et un peu plus tard la mort d'Itsrak, donc c'est encore vraiment une génération importante qui disparaît, les générations pivots, hein, je l'ai dit, le couple que formaient Itsrak et Rivka étant les patriarches du milieu, c'est un peu l'équilibre hein, dans cette génération des Avot. Et donc nous les verrons malheureusement quitter ce monde. On assistera aussi à la naissance du dernier, c'est important de le dire aussi, à la naissance du dernier enfant de Yaakov, puisque contrairement à ce qu'on a beaucoup vu circuler en voulant faire le parallèle avec la libération des 13 otages le premier soir, il n'y a pas eu 13 enfants pour Yaakov dans la paracha de la semaine dernière, mais 12. Hein. Il y avait 11 fils plus Dina, le dernier enfant, Binyamin, qui va entraîner simultanément la mort de Rachel, parce que Rachel meurt en couche, là aussi dans des circonstances tragiques, et un coup très dur psychologiquement, bien sûr, pour Yaakov, de perdre Rachel, qui sera enterrée à Bethléem. Je rappelle que Rachel n'est pas enterrée dans le caveau de Marpella, mais elle est enterrée à Bethléem, et que c'est justement de par cette place qui lui a été donnée à Bethléem, qu'elle va jouer son rôle de mère protectrice du clan Israël lorsqu'il sera amené à quitter Eretz Israël pour sortir en exil et qu'ils passeront à proximité de son kever. Rachel sera là comme cette mère protectrice pour incarner cette lueur d'espoir. Mais en même temps, et c'est souvent comme cela que les messages passent dans la Torah, lorsqu'on a un événement douloureux, on a en même temps un espoir qui germe, et cette joie, c'est la naissance de Binyamin. Binyamin, le Benjamin de la famille, dont on sait le rôle qu'il va jouer dans les prochaines sidrotes, les prochaines parachiotes. Et nous terminerons avec la descendance d'Esav. Voilà comment se termine cette parachiote.
Avec la naissance d'Amalek.
Tout à fait.
C'est important de le dire. Dans ce premier verset de cette parachiote, Yaakov envoie des anges. Pourquoi Yaakov envoie des anges ? C'est pas à Dieu d'envoyer des anges ?
Alors, Rachid,
Yaakov a le pouvoir d'envoyer des
anges. Alors, effectivement, en réalité, on a un mot qui est assez controversé, c'est le mot de Malachim. Effectivement, Malachim, lorsqu'on le traduit littéralement, Malachim, c'est des anges, mais on voit que ce mot, parfois, peut désigner des hommes. Alors, il fallait trancher. Rachid, lui, nous dit Malachim Mamash. C'est le premier Rachid de la Paracha, c'est un Rachid extrêmement connu, très, très court, qui nous dit Malachim Mamash. Il y a plusieurs preuves qui sont rapportées par les différents commentateurs pour expliquer pourquoi est-ce que Rashi a été contraint ici d'expliquer qu'il s'agissait d'anges et que Rashi n'a pas choisi la seconde alternative qui s'offrait à lui, c'est-à-dire de dire que c'était des hommes, des envoyés, des gens parmi ses serviteurs. Il y a tout un tas de preuves qui sont ramenées, ou bien des preuves, notamment par rapport à la juxtaposition des passages, et notamment donc la juxtaposition entre le premier verset de cette paracha et le dernier verset, Jean, de la paracha de la semaine dernière, de Vayetse, où là, nous voyons que Yaakov a rencontré des anges. Et donc, cette juxtaposition, a priori, elle suggère ici le fait que les anges dont on parle étaient des anges, étaient ces mêmes anges, et donc de véritables anges. On ne parle pas ici d'émissaires ou de personnel que Yaakov avait autour de lui, mais véritablement d'anges, de Malachim. Il y a une autre explication aussi que l'on peut comprendre et qui aurait tout son sens ici dans cette rencontre que Yaakov s'apprête à faire avec Esav. Les Malachim, ces anges-là, ils naissent aussi en quelque sorte de toutes nos bonnes actions. Voilà, chaque bonne action, elle crée un malach, elle crée un ange qui, quelque sorte, va être un protecteur, finalement, de la personne qui réalise ses bonnes actions. Et donc, on peut voir ici, dans cette volonté qu'a eu Yaakov d'envoyer des anges, c'était de montrer à Esav, encore une fois, sans aucun orgueil, il ne faut pas le comprendre ici comme une position orgueilleuse de la part de Yaakov, qui, et on le voit dans sa posture, Yaakov, au contraire, reste extrêmement humble, et on voit que malgré, à mon avis, la conscience qu'il a du travail extraordinaire qu'il a réussi à réaliser chez Lavan, toutes ces années où il est resté intègre, malgré tout le temps qu'il a passé dans un milieu hostile, eh bien, Yaakov, lui, considère qu'il reste un homme fébrile. Mais pourtant, eh bien, Yaakov comprend que devant Esav, il faut lui montrer qu'il a aussi des arguments. Ces arguments, ce n'est pas simplement des arguments physiques. Yaakov a des arguments physiques. Yaakov est extrêmement fort.
Bon, ouais, on va y arriver.
Yaakov a aussi des arguments spirituels. Et ça, je pense que c'est important qu'Esav le comprenne. Et c'est ce qui poussera les Mefarshim, certains commentateurs, donc très nombreux, à dire qu'il s'agissait de véritables Malachim. Pour autant, Jean, la deuxième, il faut le rappeler, la deuxième lecture possible de ce premier verset, c'est de dire que Yaakov a envoyé des hommes. Simplement des hommes parmi le personnel qu'il avait autour de lui,
alors,
parmi ses serviteurs.
Yaakov va peut-être envoyer des hommes, mais Esav en a envoyé 400 qui sont venus avec lui. Est-ce que le nombre 400, ça a une signification ou
Tout a une signification dans la Torah, et je vais partager avec vous, si vous voulez, rapidement un Kli Yakar, un commentaire du Kli Yakar, qui est un de mes commentateurs favoris. Uh-huh. Et le Kli Yakar, dans la parashat Chaye Sara, donc on a lu il y a quelques semaines, j'avais eu l'occasion à synagogue Rambam de rapporter cette explication, le Kli Yakar fait remarquer qu'il y a une résonance entre le chiffre 400 qui est employé à plusieurs reprises dans la Torah, dans différents endroits, différentes occurrences. La première d'entre elles, c'est la somme que Abraham va dépenser pour acheter le tombeau de Sarah. Vous savez qu'il y a cette négociation avec Éphron, et le Kli Yakar là-bas va nous faire remarquer que lorsqu'on nous parle d'Éphron dans le verset qui nous parle de cet échange de valeur, donc entre Yaakov, cette transaction entre Avraham et Éphron, eh bien nous avons le mot Éphron qui est amputé d'un vav, et nous avons une gematria Ainra qui est équivalente à 400. Et le Kli Yakar fait remarquer que ce chiffre 400 qui va revenir, et il cite notre exemple à nous, il cite les 400 hommes des Saves, mais il va citer également les 400 ans que le peuple d'Israël va être amené à passer en Égypte, que dans ce chiffre de 400, nous avons toujours des moments de tension, des moments de fragilité dans l'histoire du clan d'Israël. Ça a été le cas à ce moment-là dans cette transaction, ça a été le cas bien sûr pour les 400 ans que le peuple d'Israël va passer en Égypte. C'est le cas lorsque Yaakov s'apprête à rencontrer Esav dans une rencontre à Orisk, et il montre à quel point la posture qui était celle d'Esav à ce moment-là, contrairement à ce qu'on peut imaginer par la suite, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, la rencontre se passe plutôt bien, mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, Esav a à ce moment-là, est en train de mener un double jeu finalement vis-à-vis de Yaakov, et il a ce regard qui est pas forcément un regard très bienveillant vis-à-vis d'Yaakov. Pas croire que Esav a décidé de tourner la page, pas du tout. Le Arba Meot, c'est ce Ayin Ra, c'est cet œil extrêmement encore hostile qu'Esav peut avoir vis-à-vis de Yaakov.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va un peu avancer et on dit, les commentateurs expliquent qu'avant la rencontre avec Esav, Yaakov avait trois étapes à mettre en place. On parle de la prière, on parle des présents, donc des cadeaux, et on parle du combat.
La guerre, là, oui, tout à fait.
Pardon ?
Oui, tout à fait, la guerre. Qui...
Et la troisième, le combat donc avec l'ange.
Pas avec l'ange, non, le combat avec Esav lui-même.
Avec Esav. D'abord, est-ce que c'est le bon ordre ?
Bien sûr, c'est le bon ordre. On commence par prier, toujours, bien sûr, c'est très important. Si on ne commence pas par se mettre en condition, si avant de partir au combat, voilà, on ne comprend pas que l'issue de ce combat ne dépend que d'Akadosh Baruch Hu, par principe, un homme doit savoir que toute sa vie dépend d'Akadosh Baruch Hu. Si un homme pense pouvoir s'appuyer sur ses propres mérites, il n'a rien compris. C'est un péché d'orgueil qui lui coûtera forcément à terme. Donc bien évidemment, ce que l'on attend d'un homme avant tout, c'est qu'il soit capable de comprendre que même lorsqu'il doit agir, lorsqu'il n'y a pas d'autre solution finalement que parfois mener une guerre, et en l'occurrence ici une guerre physique qui va peut-être donc intervenir, à laquelle Yaakov doit se préparer, c'est sa manière de faire sa ishtadlut, c'est sa manière de montrer qu'il ne fuit pas la réalité, mais la première chose à faire, c'est de dire, même si je dois mener la guerre, de toute façon l'issue ne dépend absolument pas de moi. Voilà, moi je ne peux que m'en remettre, je ne peux que remettre mon sort entre les mains de mon créateur d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est bien sûr la première chose à mettre en place. La deuxième, il y aurait beaucoup de choses à dire, puisque la deuxième c'est la diplomatie. Voilà, les cadeaux c'est la diplomatie. Avant la guerre, on essaye la diplomatie. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Ça fait forcément écho avec la situation que nous vivons en ce moment. Malheureusement, la montre tourne et on n'a pas le temps de développer. Mais chacun, bien sûr, se fera son idée de la manière dont on peut appréhender une guerre. Et la diplomatie, elle fait partie, j'ai envie de dire, intrinsèquement de la guerre. Et puis, bien sûr, il y a cette troisième étape, lorsque cette guerre est inéluctable, qui est de mener cette guerre physique, mais précédée, comme vous l'avez dit, vous avez parlé d'un ordre, forcément, obligatoirement précédé, en tout état de cause, par la tefila, et ne jamais s'en remettre à sa propre force physique, voilà, sans quoi on risquerait de connaître une très grosse désillusion.
Alors, il y a ce combat avec l'ange. Alors, l'ange, c'est l'ange de Esav, vous m'avez dit ?
L'ange tutélaire d'Esav, tout
à fait. Ça veut dire quoi ? C'est quoi dans le symbole ? C'est
Voilà, là aussi, c'est un passage tellement merveilleux, ce passage où Yaakov se retrouve seul, déjà. Alors, premier élément que l'on doit prendre en considération, Yaakov se retrouve seul. Et c'est finalement lorsqu'une personne se retrouve seule qu'elle se retrouve aussi seule face à ses doutes, seule face à ses peurs, et seule face à son Yetzer Hara, finalement. Lorsqu'une personne se retrouve seule, c'est là où elle est seule aussi face à ses fragilités. Yaakov avait aussi certaines fragilités, et c'est lorsqu'on se retrouve seul aussi qu'on est vulnérable. C'est très important de le rappeler. Et c'est au moment où Yaakov, justement, est vulnérable, que l'ange tutélaire des sages en profite pour lui mener une bataille. Cette bataille, c'est la bataille pour le Emet, c'est la bataille pour la vérité, c'est cette bataille justement que Yaakov va remporter. Ce n'est pas une bataille physique, on est dans une bataille spirituelle ici, une bataille qui est aussi psychologique, mais une bataille qui est surtout spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle, je le rappelle souvent, Yaakov va gagner et il va être blessé. Alors on dit, mais s'il est blessé, c'est qu'il a perdu. Comment est-ce qu'on peut annoncer la victoire en nous annonçant simultanément que Yaakov a été touché, alors qu'à aucun moment on ne voit que Yaakov, lui, n'a blessé l'ange. En réalité, c'est ça la victoire de Yaakov, c'est que lorsque la personne qui est en face de lui, dans une bataille qui se situe de manière absolue sur le plan spirituel, lorsque la personne qui est en face de vous n'a plus d'arguments spirituels, eh bien, elle frappe. C'est l'atteinte physique est un signe de faiblesse. Alors, et on le voit tous les jours. Lorsqu'une personne n'a plus d'arguments, elle peut devenir violente. Et cette violence est l'expression de la défaite de celui qui n'a plus d'autre choix que d'utiliser la violence, parce que tout simplement, il est à court d'arguments.
Alors, donc, on vous l'avait dit, Yaakov bat cet ange, et il le touche dans une partie qui s'appelle le nerf sciatique, et découle de cette bataille une interdiction pour nous. Quelle est-elle ? Je vous l'ai dit avant.
Non, vous pouvez la dévoiler, Jean.
Du coup, on n'a plus le droit de manger une partie de la bête.
Tout à fait.
Si on en
le guide
a
lâché, ça a des conséquences dont nous, on ne se rend pas forcément compte, parce que tout le travail est fait déjà en amont au niveau des abattoirs et des boucheries. Mais vous avez raison, parfaitement raison, de le rappeler. Ça a des conséquences extrêmement pratiques et qui ne sont pas en réalité anodines. Cette mitzvah, bien qu'étant une mitzvah un peu irrationnelle, elle a en réalité des sources extrêmement profondes.
Mais ça vient uniquement de là ou
bien ? Ça vient uniquement de là. Alors, ce que vont dire la majorité des commentateurs, c'est qu'il faut un zécher, il faut absolument un souvenir de cette lutte, parce que cette lutte, elle a été déterminante dans l'histoire du clan d'Israël. Cette victoire spirituelle de Yaakov, à ce moment-là, contre l'ange tutélaire des Saves, est un épisode qui a été déterminant dans l'histoire et dans la construction future du clan d'Israël. Et donc, il faut absolument rappeler cet épisode, comme on rappelle par d'autres mitzvot, par d'autres commandements, tous les événements importants de l'histoire de la construction du peuple d'Israël. Le Kli Yakar, je partage avec vous cette explication parce qu'elle est très très belle et très originale. Lui nous dit que le nerf dont vous avez rappelé s'appelle guide en hébreu. Guide, effectivement, c'est quelque chose de difficile, quelque chose de très très dur, quelque chose qu'on a du mal à couper. Et on peut aussi le comprendre ici dans le sens spirituel du terme, à savoir que la achila, donc la consommation de quelque chose qui consiste finalement aussi, lorsqu'on parle de achila, à une construction spirituelle. Lorsque quelqu'un ingère quelque chose, il mange, il se nourrit finalement de ce qu'il est en train d'absorber. Et il peut se nourrir physiquement comme on peut se nourrir également spirituellement de ce que l'on ingère. Eh bien ici, ça serait un petit clin d'œil pour nous dire que les choses qui sont listarotes, les choses qui sont un petit peu complexes, qui dépassent notre entendement, eh bien, nous ne devons pas les ingérer. Voilà, il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Elles sont réservées à des personnes et qu'il est très dangereux parfois de vouloir absolument chercher à comprendre des choses dont on ne peut pas comprendre le sens. Et il y aurait, d'après le Kli Yakar, un petit peu une allusion ici à cette idée en nous disant, attention, ce n'est pas parce que Yaakov, lui, a réussi à gagner cette bataille que tout un chacun peut se permettre ou peut s'atteler à cette tâche extrêmement dangereuse de vouloir absolument comprendre des choses qui sont en dehors de notre champ de compréhension. Et c'est ça aussi cette mitzvah d'interdiction de manger
le
guidage.
Le temps passe extrêmement vite et je voudrais aussi dire quelques mots sur Hanouka, donc on va passer très vite. Il y a l'histoire
je sens que vous êtes impatient de cette fête de Hanouka arrive.
Oui, c'est la joie, c'est la lumière, c'est les beignets.
Vous avez déjà préparé votre Hanoukia, Jean, peut-être ?
Oui, elle est prête. Alors, les choses sont achetées en tout cas. Donc, on résume. On va passer l'histoire de Shrem, vous l'avez dit, la naissance de Dinah. C'est aussi très intéressant à dire, parce que ça...
Dina et Jané dans la paracha de la semaine dernière, mais en tout cas, il y a un épisode très troublant avec Dina.
Et même la réponse des enfants de Yaakov est très intéressante. Très intéressant.
Oui, surtout qu'elle aura des conséquences vraiment bien plus tard, et là, même au niveau des brachot que Yaakov prononcera avant de mourir, avec chacun de ses enfants.
Il y a un des rabbins que j'ai entendu hier qui faisait une corrélation entre cette histoire-là et ce qui se passe en ce moment. On annonce dans cette paracha la mort de Rivka et de Déborah. Déborah, c'est la nourrice. Alors
Déborah, c'est un personnage un peu inconnu. Effectivement, le passouk nous dit qu'elle était Ménéket Rivka, qu'elle était la nourrice de Rivka. Et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Rashi qui rapporte ce midrash comme quoi, au moment de la mort de Déborah, Yaakov a également été. Yaakov a également appris à ce moment-là la mort de sa maman. Et Rashi nous dit que le mot du mot Alon, justement, qui peut vouloir dire aussi deuil, on voit qu'il y a eu un double deuil à ce moment-là, mais ce n'est pas dit explicitement dans le verset. Et Yaakov nous dit qu'on avait peur que cette mort-là, l'annonce de cette mort, entraîne en quelque sorte des mots déplacés sur Rivka, qui avait mis au monde également, pas simplement Yaakov, mais également Esav, et qui causait beaucoup de tort au peuple d'Israël. Mais Dvorah, dont on parle, parce que vous me demandez qui est Dvorah, donc c'est bien la nourrice de Rivka, et il ne faut pas la confondre, surtout pas la confondre, avec la prophétesse Déborah, qui est un grand personnage du clan d'Israël, dont on nous loue toutes les qualités dans le livre de Shoftim. Elles n'ont pas de rapport, ce sont deux personnages ici différents, et que Yaakov a tenu à honorer. Je pense que c'est aussi ça le message de ce verset, c'est de nous montrer la reconnaissance, la hakarat hatov, qui était celle de Yaakov, par rapport à cette nourrice, qui était, d'après certains, même sa propre grand-mère.
Ah. On parle également de la naissance des enfants de Rachel. Yitzhak meurt enterré par ses deux fils.
Du fils de Rachel, parce que Yosef est né dans la paracha de la semaine dernière, du deuxième fils de Rachel, Binyamin.
La mort de Isaac, qui se fait enterrer par...
par ses deux enfants.
C'est des enfants. Pourtant, c'est dans toute la mort des...
Des patriarches.
Des avotes et des c'est une phrase.
Mais on n'a pas besoin de dire plus, en réalité. Ce qui est important, c'est de nous rappeler la, brièvement la vie qui était la leur.
On pourrait faire un respect dans la Torah. On le fait avant l'enterrement. On pourrait dire... Yaakov, ou je sais pas, là, une phrase.
Vous posez une très bonne question, à laquelle je vais répondre tout simplement en vous disant que le hesped, l'oraison funèbre des avot et des imaot, c'est tout simplement leur vie telle qu'elle est comptée dans la Torah. On n'a pas besoin de faire un hesped supplémentaire. Tous les éléments de vie qui sont rapportés dans la Torah, d'Abraham, de Sarah, sachant, et je le répète pour la millième fois peut-être, que la Torah ne nous raconte pas tout sur les avot.
On peut au moins rajouter un mot...
Non, ça serait finalement presque superflu par rapport aux éléments que la Torah a jugé nécessaire de rapporter dans la vie de ses avot. Je le redis, la Torah ne fait pas une liste, une biographie exhaustive des avot et des imot. On en a la preuve avec Avraham, dont on nous parle pour la première fois alors qu'il a 75 ans. C'est rien de ce qui s'est passé les 75 premières années de sa vie, tout simplement parce que la Torah ne rapporte que les épisodes qui sont importants, des épisodes qui ont une dimension tout à fait particulière. Et notamment en tant qu'enseignement, on le rappelle, Siman Maaseavot, Siman Labanim, les actions des pères sont toujours des balises pour les enfants, et donc il est là le hesped finalement des avot, ce sont tous ces maasim, toutes ces actions qui sont rapportées par la Torah sur la vie de ces patriarches et de ces matriarches.
20 secondes pour le changement de nom entre Yosef et Israël.
Non, Yaakov et Israël. Alors, pas un changement de nom, mais un rajout de nom, c'est ce que je disais tout à l'heure, plutôt, tout simplement parce que, contrairement à Avraham, il n'y a pas d'interdiction de continuer à appeler Yaakov. Et d'ailleurs, la Torah elle-même continuera par la suite à appeler Yaakov, tantôt Israël. Alors, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que Yaakov, c'est plutôt le nom de celui qui est encore un petit peu à la traîne, qui attrape le talon d'Esav et qui représente la dimension de Yaakov lorsqu'il est en exil, tandis que Israël, voilà, c'est tous les espoir, c'est l'aspiration à autre chose, à cette émancipation, à quelque chose de plus grand, et à Yaakov dans sa dimension la plus noble.
Voilà, une minute 20 pour nous parler de Hanouka. Il y a une minute encore. On a 20 secondes. Monsieur le grand rabbin, en une minute, Hanouka, c'est jeudi soir. Est-ce qu'on peut dire une petite chose? À quelle heure on allume la Hanouka en général? C'est au début de la nuit?
Voilà, alors la majorité des communautés ont l'habitude d'allumer Hanouka pile à la nuit. Certains l'allument un peu plus tôt au coucher du soleil. Mais nos communautés, ici, que ce soit chez les Sfaradim ou chez les communautés alsaciennes hein, de la vallée Rhénane, allument à la sortie des étoiles le plus tôt possible. Je conseille toujours d'allumer vraiment le plus tôt possible, de ne pas attendre le soir et de ne pas vaquer à d'autres occupations avant d'avoir allumé la Hanoukia et d'avoir passé vraiment un temps minimum devant la Hanoukia. Il faut en profiter, on n'allume pas et on sort de chez soi, on allume et on reste un petit peu devant la Hanoukia, dans l'idéal une demi-heure avant de vaquer à ses occupations.
Merci à vous tous de nous avoir suivis. Évidemment, Shabbat Shalom, Chag Sameach. Merci, monsieur Grand Rabbin, merci. Et on se retrouve la semaine prochaine.